Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries, il est question de racisme, de féminisme post-colonial et de comment il s'imbrique, au Canada et plus globalement, avec Leila Benadjoudja, sociologue et anthropologue, enseignante à l'Université d'Ottawa.
Merci Leila Benadjoudja de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries. On est ravis de vous recevoir. On vous reçoit donc à distance puisque vous êtes au Canada, à l'Université d'Ottawa. Et ma première question, peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices, serait de vous demander justement de nous expliquer un petit peu qui vous êtes, quel a été votre parcours.
Oui, bonjour. Merci beaucoup, Colline, de cette invitation. Donc, en ce moment, je suis à Ottawa. Et puis, mon parcours, académique et personnel sont extrêmement liés. Je suis algérienne, je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie et j'ai émigré avec ma famille en 1997 au Canada. Donc c'était en pleine turbulence politique en Algérie et donc c'est ce qui a fait que je me retrouve au Canada. Et depuis 2016, je travaille comme professeure de sociologie à l'Université d'Ottawa et je travaille principalement avec les perspectives féministes postcoloniales sur la sociologie du racisme, principalement sur le contexte canadien québécois de manière plus spécifique.
Alors c'est des thématiques qui sont particulièrement chères à Approche Culture et Territoire, donc on va essayer de décortiquer ça ensemble. Tout d'abord, vous voyez des grandes différences sur ces deux thématiques entre la manière dont on peut les aborder du côté français et du côté canadien.
Alors, la réponse serait oui et non. C'est une question complexe parce que, bon, d'abord, le Canada, c'est pas du tout un bloc uniforme. Et la manière dont on traite les questions raciales ou le racisme ne sont pas les mêmes partout au Canada. Donc, il y a un grand clivage entre les espaces anglophones et francophones, d'abord. Et donc, je parlerai un peu plus du Québec, par exemple. Où il y a beaucoup, en tout cas, on peut retrouver des similitudes avec le contexte français, de par le fait qu'il y a un grand partage des épistémologies nées dans les contextes francophones. Il y a beaucoup de discours politiques qui circulent entre le Québec et la France, et ça a une grande influence, en fait, sur la manière dont on réfléchit le racisme, autant dans le milieu universitaire, mais aussi à l'extérieur, donc dans les espaces politiques, militants, etc. Alors que dans le Canada anglophone, il y a une plus grande réception et ouverture face à ces questions-là, par rapport à ces questions et la manière dont elles ont été traitées dans les milieux anglophones, donc en Angleterre, aux États-Unis. Et du coup, je dirais que c'est pas simple de dire c'est complètement différent, mais oui, il y a des ressemblances, il y a des intersections. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de débats qui animent la France aujourd'hui sur les questions du racisme traversent aussi le Québec ou de manière proche dans le temps ou parfois de manière asynchrone. Mais quand on travaille sur le racisme au Québec, c'est difficile de faire fi au contexte français parce que justement, comme je vous disais, il y a une grande circulation des discours politiques, des représentations. Mais n'empêche que au Québec, on retrouve aussi une influence des penseurs post-coloniaux qui sont chers aux universités plutôt anglo-saxonnes, même s'ils ne sont pas nécessairement issus d'une production anglo-saxonne. Je suis quand même un peu, pour nuancer, un peu réticente au clivage qu'on va marquer par rapport à anglo-saxons et francophones, parce que quand on travaille sur des perspectives décoloniales, par exemple post-coloniales, on sait que ces perspectives-là ne s'inscrivent pas dans ce type de paradigme, puisque c'est souvent des perspectives qui nous viennent d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique du Sud, de l'Inde, et donc c'est beaucoup plus par des penseurs, des intellectuels qui ont vécu la colonisation ou l'esclavage, c'est plus des critiques des empires, qu'ils soient francophones ou anglophones.
Et là, actuellement, dans les questions qui traversent la société, justement, Alors peut-être celle du Québec, puisque on va peut-être parler plus de ce contexte-là. Qu'est-ce que vous diriez qui traverse principalement la société actuellement ?
Vous voulez dire sur le débat sur le racisme ?
Oui.
Alors, plusieurs choses. D'abord, au Québec, déjà la reconnaissance par le gouvernement de l'existence même d'un racisme systémique. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement du Québec refuse... cette expression même, en fait, de racisme structurel, racisme systémique, et préfère plutôt avoir une vision très simpliste des choses, c'est-à-dire que oui, le racisme existe, mais c'est le fait d'individus, et qu'il suffirait d'éduquer certaines personnes ou de mieux d'articuler un discours antiraciste j'ai envie de dire très libéral, qui ne veut pas s'en prendre aux origines même du racisme, en fait, et à quel point le racisme habite les structures sociales, habite les institutions, pardon. Et donc, ça, c'est un premier débat, mais je dirais même que ce débat-là tente d'effacer ou d'affaiblir le discours antiraciste, puisque en niant même le racisme, ça permet de maintenir le racisme. Et ça empêche des conversations beaucoup plus profondes, ça empêche des réflexions beaucoup plus profondes sur la complexité du déploiement du racisme. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ce soit le Québec ou le Canada, on est vraiment dans des sociétés de colonisation et de peuplement. C'est-à-dire, on ne peut pas réfléchir le racisme sans la question de la colonialité, sans la question coloniale. Puisque les premiers peuples au Canada continuent à subir un système colonial. Et donc, le racisme ici ne relève pas simplement de comportements individuels, il relève vraiment de structures d'État, de lois, de manières de faire et de gérer les populations. Qui maintiennent un système colonial et qui maintiennent le racisme par le fait même.
Et d'ailleurs, une partie de vos recherches s'oriente aussi sur le féminisme post-colonial, pour le coup, qui par son sujet aussi est marqué par le racisme, j'imagine. Est-ce que ce féminisme-là, il a une voix, et une voix importante aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il a une voix très importante. Bon, ce qu'on comprend par féminisme post-colonial, c'est quand même très, très large et... et il y a vraiment des mouvements féministes très forts aujourd'hui au Québec, le féminisme autochtone, le féminisme noir, le féministe musulman, pour ne citer que celles-ci. Donc oui, en termes de mouvements sociaux, c'est des groupes féministes très forts, mais par contre leur réception est particulière, on va dire. Leur réception principalement par ce qu'on appelle le féminisme mainstream, c'est-à-dire le féminisme dominant, ou qu'il s'agisse du féminisme d'État, ou certaines associations féministes aussi, qui tentent d'écarter l'enjeu du racisme et du colonialisme pour finalement essayer de réfléchir sur un féminisme qui ne pose pas les femmes autochtones et les femmes noires au centre. Donc, je m'écarte un peu de votre question, mais oui, ces féminismes-là sont présents et sont très forts. Mais par contre, ils sont encore parfois inaudibles, principalement dans les structures de l'État.
Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à cette histoire-là aussi? Et comment elle est transmise aujourd'hui à l'université, puisque vous êtes universitaire?
Comme je disais au début, on est toujours très proche de nos biographies. En fait, je pense que nos intérêts de recherche ne peuvent pas être détachés de ce que nous sommes. La question du féminisme, ou avant même que je le nomme de cette manière-là, que je le réfléchisse en termes féministes, en tout cas la question des femmes a toujours été centrale pour moi, parce que j'ai entendu des conversations de femmes, à commencer par celle de ma mère ou de ma grand-mère ou de mes tantes en Algérie. Et donc, très très jeune, j'ai été sensible à ça, de voir ce qui préoccupait les femmes de mon entourage. Et quand on est jeune, on réfléchit un peu dans des termes naïfs, mais je pense que nos sensibilités se construisent déjà à ce moment-là. Mais par contre, en immigrant au Canada, et au Québec en particulier, j'ai commencé à ressentir la violence du racisme et la violence du féminisme blanc. Et donc, de voir le regard des femmes de la société dominante sur ma culture d'origine, sur mon pays d'origine et sur ma famille ou sur ma religion, etc. Et donc là, j'ai eu vraiment des moments d'hésitation si j'avais envie de m'identifier comme féministe ou pas, ou de m'intéresser au féminisme ou pas, parce que finalement, ce que je voyais, c'était le féminisme blanc, en fait, qui me dérangeait, mais je n'avais pas nécessairement les outils pour les réfléchir dans ces termes-là. Et c'est vraiment plus tard, et c'est beaucoup en lisant et en côtoyant des femmes racisées, que j'ai compris que le féminisme, c'est vraiment pas un bloc homogène, et surtout que le féminisme n'appartient pas à la blanchité. Et qu'au contraire, ce féminisme-là qui a été utilisé par les structures coloniales ou les structures blanches contre les communautés racisées, contre les Algériennes, en Algérie par exemple, c'est là où j'ai compris que ma maison, si vous voulez, si je peux dire les choses comme ça, se retrouvait chez les femmes racisées et chez le féminisme, dans le féminisme postcolonial en particulier. Et donc c'est ce qui m'a emmenée en fait à m'intéresser à ces sujets, à la fois pour ma vie à moi, mais aussi dans des termes plus académiques et de recherche aujourd'hui. Et puis quand on travaille sur le racisme, quand on milite contre le racisme, je crois qu'on rate sa cible, à mon avis, si on ne pense pas dans des termes intersectionnels. Et donc, c'est aussi par l'intersectionnalité que j'ai pu mieux comprendre en fait la complexité des positionnalités et comment est-ce que le racisme affecte de manière différente et spécifique les femmes racisées.
C'est des questions qui sont au cœur aussi de polémiques qu'on peut avoir en France aujourd'hui. Ce mot « intersectionnalité » qui a été reproché et qui l'est toujours, reproché à des personnes qui l'utilisent. Et du coup, ça donne envie de l'affirmer, en fait, et justement, à travers ces études et à travers ce champ universitaire que vous couvrez, ça me semble intéressant aussi de voir avec vous comment il est perçu par les étudiants et les étudiantes que vous avez en face de vous. Est-ce que vous voyez une évolution dans sa prise en compte? Est-ce que vous avez le recul là sur comment il est perçu au sein du champ universitaire aussi? Ce mot-là.
Au Canada et au Québec, la question ne se pose pas de la même manière qu'en France. Je sais qu'en France, ça crée vraiment une polémique. Aujourd'hui, au Québec, en tout cas dans le milieu universitaire et au Canada, l'intersectionnalité est vraiment à la mode. Elle est devenue un buzzword même. On insiste à ce que Sir Mavilliers appelle le blanchiment de l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'intersectionnalité est célébrée, mais sans une réelle transformation des rapports de pouvoir dans le milieu universitaire, par exemple, mais aussi en invisibilisant les femmes noires, puisque l'intersectionnalité est née justement des luttes des féministes noires aux États-Unis. On peut complexifier cette historicité, mais n'empêche que pour rester ancré dans son usage dans le milieu universitaire, on insiste à son blanchiment de plusieurs manières. D'abord, on l'utilise de manière dépolitisée, parce que l'intersectionnalité, c'est aussi un outil politique dont les visées sont celles de la justice sociale. Et souvent, on balaye la question de la race. Donc, c'est ce qu'on voit le plus, en fait. C'est comme si il suffisait de mettre des catégories l'une après l'autre. On l'utilise dans un modèle additif, alors que l'intersectionnalité ne correspond pas du tout à ce modèle-là. C'est pas un modèle additif. Et surtout, si on invisibilise la race, comme on peut le voir dans son usage dans certains milieux universitaires, on passe à côté de toute la question du racisme. Et je dirais, voilà, donc c'est cette façon de le blanchir ou aussi on n'a pas transformé en fait les rapports de pouvoir. Et donc on continue, par exemple, à continuer à voir qu'il y a un grand manque de représentation des professeurs noirs et racisés et autochtones dans les milieux académiques, mais aussi chez les étudiantes et les étudiants. Et donc, je dirais que sa réception dans le milieu universitaire, elle est plutôt liée à son blanchiment, davantage qu'à son refus ou à son rejet.
Alors, il y avait aussi un autre aspect justement qui nous y amène à travers la question du racisme qu'on voulait aborder avec vous sur un sujet plus actuel qui anime l'université également. C'est l'utilisation par une professeure du mot « haine » et qui a été largement débattue. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui anime le débat au cœur même du système universitaire en ce moment même, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'est vécu ? Et la place qu'on accorde justement à des personnes racisées pour s'exprimer sur ce sujet-là aussi.
Oui, en effet, il y a eu une controverse très médiatisée l'automne dernier, d'une enseignante qui a utilisé le mot « haine », mais sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé exactement, ça a soulevé toute la question de l'usage de certains mots blessants, offensants, dans nos cours, dans nos pédagogies. Et la demande de plus en plus forte des étudiantes et des étudiants, ou d'autres membres de la communauté universitaire, de ne plus utiliser ces mots-là, qui sont très lourds de sens et qui sont utilisés contre les personnes qui continuent à vivre des violences structurelles historiques, ces violences-là qui sont liées à l'expérience de l'esclavage et de la colonisation. Et donc, ça a créé une polémique, en tout cas particulièrement au Québec, dans le milieu francophone, à savoir est-ce que ce sont les libertés universitaires qui sont menacées. Finalement, en réfléchissant dans ces termes-là, on oppose la question de la liberté universitaire avec la dignité des individus, des gens et des communautés. Et à mon sens, c'est une manière erronée de poser les questions, puisque c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit pas d'enfreindre la liberté universitaire, mais plutôt de réaliser que les mots sont importants, les mots ont un sens, les mots ont une histoire, les mots sont politiques, et que on peut très bien enseigner sur le racisme, sur les violences historiques, sur leur actualité, sans perpétuer les violences de ces mots-là, sans performer les violences de ces mots-là. Et c'est un peu ça qui est raté, en fait, dans cette polémique, c'est que c'est une polémique qui a principalement été portée par des personnes blanches et qui a mis en évidence ce que D'Angelo montre en parlant de fragilité blanche. Donc, ce qui se joue là, pour moi, c'est il n'y a pas eu d'écoute, en fait, ou une réelle écoute ou une attention de dire « Oh, d'accord, réfléchissons ensemble sur la violence de ce mot-là. Ah, d'accord, comment est-ce qu'on peut transformer nos pédagogies ? Comment est-ce qu'on peut avoir des pédagogies qui mènent à la guérison et non pas des pédagogies qui mènent à perpétuer les violences ?» Et ça, c'est particulièrement vrai pour le mot « haine », mais il y a d'autres mots aussi où il y a d'autres performances aussi vis-à-vis des personnes autochtones aussi, par exemple. Et donc, on n'arrête pas de dire que le langage est important. Il doit être important dans tous les sens. Il doit être important aussi vrai dans la pédagogie, aussi vrai dans le discours politique, dans nos interactions au quotidien. Et ce qui est aussi raté, c'est que dans cette polémique, c'est qu'on a oublié que la salle de classe n'est pas un espace neutre. Nous ne perdons pas nos positionnalités parce que nous rentrons dans une classe. Les rapports de pouvoir ne disparaissent pas dans une classe. Au contraire, elles sont toujours là. Et donc, si on enseigne sur des sujets aussi importants que la question du racisme ou tout autre sujet, ben, on doit tenir compte de ces rapports de pouvoir. Et il y a longtemps, en fait, que les communautés noires, particulièrement en Amérique du Nord, demandent à ce que les personnes non noires n'utilisent plus ce mot haine qui est toujours utilisé aujourd'hui pour violenter les personnes noires. Et donc voilà, cette controverse, disons, me dérange particulièrement dans la mesure où elle n'a pas encore abouti à une conversation sur le racisme. Et donc, elle a plutôt tourné sur des enjeux extrêmement, j'ai envie de dire, à côté de la plaque, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de... Il n'y a pas eu d'appel à la censure, il n'y a pas eu d'appel à violer aucune liberté, mais il y a eu appel au respect de la dignité. Et c'est ça qui est resté inaudible, en tout cas, puisque... Bon, ça commence à cheminer, à mon avis, mais n'empêche qu'au début, la première réaction d'une bonne partie des membres de la communauté universitaire au Québec, ça a été de dire « Oh là là, nos libertés sont brimées ». Et il y a eu un renversement aussi de la situation où celles et ceux qui sont devenus violents, ce sont celles et ceux qui demandent à ce qu'on respecte leur dignité. Donc, et ça, c'est un schéma classique, en fait, lorsque des individus et des communautés appellent à ce qu'on cesse les violences qui sont faites contre elles et eux, souvent, il y a comme un renversement. Et ce sont les personnes qui sont victimisées par ces violences qui sont à leur vue comme étant violentes. C'est ce qu'on dit souvent aux personnes racialisées, c'est que c'est elles qui produisent le racisme du fait de parler du racisme. Et donc cette logique-là, il faut absolument qu'elle cesse pour vraiment faire place à une réelle écoute. Et je crois que la première chose à faire lorsqu'on parle de racisme, c'est de faire preuve d'écoute, surtout lorsqu'on est issu des communautés qui ne subissent pas le racisme. Lorsqu'on est une personne blanche qui ne peut pas subir le racisme, parce que le racisme ne se fait pas contre les personnes blanches. Le racisme, il donne des privilèges, en fait, à certains et pas à d'autres. Donc, il donne des privilèges à la blanchité. Eh bien, il faut être à l'écoute. Et c'est ça aussi qui a beaucoup manqué, c'est cette écoute de se dire qu'est-ce qui se joue là, en fait, dans l'appel à ce qu'on cesse d'utiliser ce mot-là, de lui donner, pour qu'on ne donne plus vie à la violence de ce mot. Mais bien sûr, ça va au-delà du mot. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est ce qu'il y a au-delà du mot.
Et vous disiez justement que c'est éminemment politique. Est-ce que ça a été repris à un niveau politique au Canada ou c'est resté une discussion et une controverse universitaire ?
Oui, oui, bien sûr, ça a été repris par les politiques. Même le Premier ministre, Justin Trudeau, s'est prononcé là-dessus en disant, dans le cas de Trudeau, il a dit que... en fait, il a appelé à ce qu'on... Si je me souviens bien, là, je déforme pas ses propos, qu'effectivement, il y a des mots qu'il faut pas utiliser parce que c'est des mots racistes, en fait. C'est une violence raciale d'utiliser ces mots-là, même dans le cadre d'une... du milieu universitaire. Au Québec, la même façon, ça a été repris par les politiciennes et les politiciens qui se sont dit inquiets pour les libertés universitaires. Donc, ça n'a pas été exactement la même réaction. Donc oui, les politiciens se sont intéressés à cette question, mais souvent pas ça n'a pas nécessairement fait avancer la chose, je dirais.
On entend, en tout cas, à travers les différentes thématiques qu'on vient d'aborder succinctement, hein, même si on aurait pu rentrer dans le détail de chacune des thématiques abordées, que y a de toute façon des ponts entre les problématiques que vous abordez dans votre contexte et puis les problématiques qui nous touchent au cœur aussi en ce moment en France. Et on sent aussi dans votre voix et dans vos propos un réel engagement aussi à en faire des thématiques qui soient abordées plus largement. Du coup, ça m'amène à vous poser un petit peu la question rituelle de l'émission, qui est « Pourquoi tu cries ?». Donc, je voudrais vous demander, Leïla, de nous expliquer pourquoi tu cries.
Pourquoi je crie? Très bonne question. Je crie d'abord pour la justice. Je crie contre l'oubli. Je crie pour la justice et contre l'injustice. Je crie pour l'égalité. Je crie avec plein d'autres personnes, je pense. Je crie parce qu'il faut crier ça peut sembler très naïf, mais oui, il faut changer le monde. ça commence par nos propres comportements. Ça commence par réfléchir sur soi, sur sa propre histoire, et ensuite travailler avec les autres pour transformer les histoires, pour écrire d'autres histoires. Je crie parce qu'il faut continuer à crier. Les choses sont trop graves pour se taire, et mais dans ce cri il y a des chansons, il y a des éclats de rire, des pleurs, c'est un cri qui a différentes sonorités, je dirais.
Et est-ce qu'on vous reproche de crier, justement? Est-ce que c'est facile de...
Bien sûr. Bien sûr, on nous reproche toujours de crier. Bien sûr qu'on nous reproche de crier. Mais c'est pas grave, il faut continuer à crier. Parce que même si certaines et certains nous le reprochent, d'autres ont envie de crier avec nous. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de s'inscrire dans une communauté, des communautés où on crie ensemble pour la justice.
Merci pour votre témoignage et pour cet échange. Et on continuera de suivre tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et aussi de suivre vos recherches avec Approche Culture et Territoire.
Merci beaucoup, Colline, de l'invitation.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.